L'immense popularité des Croix de Feu et des Briscards avait suscité images d'Épinal et chansons populaires. Ainsi, cette briscarde, inspirée par ces combattants anonymes des premières lignes ayant essuyé le feu de l'ennemi.
Alors que le temps est hâte, puisque voici qu'un ouragan menace de venir souiller les cercueils. Mais alors, ainsi qu'un fervent fait lever le pain sous la braise, toute dont la nature et ses françaises ont crié debout dans le vent. Lève-toi, briscard, lève-toi, nous devons monter la garde. N'oublie pas que tu te dois d'être prêt quand sonnera la briscarde. Lève-toi, briscard, lève-toi, nous devons monter la garde. N'oublie pas que tu te dois d'être prêt quand sonnera la briscarde. Lorsque la mort passait en rafale, si nous avons résisté sous les balles, c'est que nous tous nous ne faisions pas. Aujourd'hui partout c'est l'oubli, c'est l'appel au meurtre, à la haine. Mais du tombeau sous l'arbre brisant les chaînes, le poilu sacré pousse un cri. Lève-toi, briscard, lève-toi, nous devons monter la garde. N'oublie pas que tu te dois d'être prêt quand sonnera la briscarde. Lève-toi, briscard, lève-toi, nous devons monter la garde. N'oublie pas que tu te dois d'être prêt quand sonnera la briscarde. Politiciens véreux, voleurs en droit, policiers infâmes, pontifes faux et sectateurs sans âme, du troupeau berger sans aveu, vous avez souillé nos autels. Mais la France vers nous se penche, et de tous ceux qui gardent leurs mains blanches, nous voulons sonner leur appel. Lève-toi, briscard, lève-toi, nous devons monter la garde. N'oublie pas que tu te dois d'être prêt quand sonnera la briscarde.
Le 19 mars 1938 se réunit le Conseil national extraordinaire du Parti social français. Répondant à la proposition de Léon Blum d'inclure certains membres du PSF dans un gouvernement d'unanimité nationale, Laroque annonce
« Il fallait étudier avec un esprit détaché de toute passion, comme on étudie un problème de mathématiques, les avantages, les inconvénients de toute réponse, quelle qu'elle fût. Les avantages, inutile d'insister, la possibilité de montrer aux puissances étrangères le spectacle d'une France resserrée sur elle-même, fraternellement soudée, apparaissait théoriquement comme le gage certain du salut. Si nous avions accepté la participation, c'était du même coup, me fit en sortie, le droit de cité donné au PSF par ceux-là même qui, sous forme de poursuites insensées, tentèrent de nous accabler par des lois injustes. Mais plus les circonstances sont complexes, plus il faut s'accrocher non seulement au bon bout de la raison, comme disait Rouletabille, mais surtout aux principes essentiels. Il n'était pas possible d'accepter la collaboration au sein des conseils du gouvernement avec les dirigeants du Parti communiste, ceux-ci acceptant, reconnaissant, exhibant leur dépendance vis-à-vis d'un gouvernement étranger, le gouvernement moscovite.
La vie politique française doit maintenant compter avec nous, déclare Laroque, puis il ajoute
le fait PSF. Ce fait résulte de l'existence d'une véritable masse, pour la première fois groupée autour du seul drapeau tricolore. n'insiste pas sur la grande générosité sans cesse éprouvée qui forme la caractéristique de cette masse et dont, mes chers amis, vous êtes les auteurs. Elle met en œuvre, si nous ne parlons que du suffrage universel, près de 1800 000 votants. Le travail social, qui donne à l'œuvre politique son sens et sa vie, dépasse dans nos rangs ce qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Or, cette masse n'est pour le moment représentée dans les assemblées législatives que par un groupe de 8 députés. La qualité remplace la quantité, direz-vous. Je suis bien d'accord, mais nous n'avons pas ici à perdre notre temps en politesse, si légitime et si méritée soit-elle. Nos députés, nos comités fédéraux, notre comité exécutif ne doivent pas perdre de vue qu'ils représentent cette masse et que cette dernière, même si en dehors de chez nous, on affecte de la sous-estimer, forme une garantie, jusqu'à présent tout à fait inédite, pour les cabinets qu'elle décidera de soutenir, représente vis-à-vis de l'opinion un gage inouï de moralité comme d'indépendance, associe le réveil des élites et un appel populaire chaque jour plus profond. Les conséquences d'une orientation prise par le Parti social français sont incalculables. S'il se lance dans une voie, il est quasi impossible de l'y arrêter. Son appoint pour les joutes électorales, surtout au moment d'une consultation générale, imprimera un caractère décisif à l'expression du suffrage universel. Et si nous n'avions pas pris à tout risque, les événements vous ont montré, côté... Ah, c'est qu'ils étaient toutes les religions. Côté... Évangile du prétoire, l'association de tous ceux que notre non-association à la cagoule a dressé contre nous, les uns parce qu'ils croyaient que nous serions tombés dans le piège et les autres parce qu'ils nous auraient voulu des heures. Nous n'avions pas pris à tout risque. Les événements vous ont montré jusqu'où ils pouvaient aller. La position formelle que dès la fin de 36, nous avons tenu à l'égard des groupes d'autodéfense, de serment et d'armement clandestins, si la simple humanité ne nous avait pas imposé une pareille position, il n'est pas exagéré de dire, et je vous l'exprime avec la plus grande gravité, avec la plus grande émotion, il n'est pas exagéré de dire que la France aurait été jetée, même malgré nous, dans une guerre civile sanglante, pire que celle d'Espagne. Le PSF a accompli, grâce à vos militants, mes chers amis, le prodige d'unir dans ses rangs des hommes animés des aspirations sociales les plus hardies et des bourgeois enfin sortis de leur tour d'ivoire. Si demain, vous représentiez autre chose que cette harmonieuse diversité à prépondérance populaire, si vous paraissiez même représenter autre chose que cela, vous seriez des traîtres vis-à-vis de vos commettants, lesquels vous abandonnerez. Et c'est ici qu'apparaît une des erreurs de ceux qui voudraient vous placer dans d'étroites formations politiques. Je reçois à l'instant une lettre de M. Doriot. C'est une invitation à entrer dans le Front de la Liberté. Une invitation à entrer dans le Front de la Liberté aux conditions de principe que j'avais fixées l'an dernier est chose extraordinaire, mes chers amis, tout de même. Cette lettre est adressée à moi et au même moment, j'apprends qu'elle est publiée dans la Liberté. Nous sommes invités à entrer dans le Front de la Liberté sous les conditions que, en principe, j'avais fixées l'année dernière pour qu'on entre dans une pareille formation. Mais depuis l'année dernière, l'eau, si j'ose dire, a coulé sous les ponts proches du palais de justice. Je demande à la presse de Front Populaire qu'amicalement nous avons invité de constater la popularité très grande que ces procès ont prise auprès de mes camarades. Sous le signe du Front de la Liberté, on a vu à travers la France des réunions se faire où non seulement se trouvaient comme orateurs des gens qui faisaient profession de m'insulter, c'est-à-dire de vous insulter dans la mesure où nous sommes solidaires, et je crois que cette mesure est assez large, l'envoyer au cours des différents exposés un drapeau que je respecte, comme je respecte tout le passé de la France, mais qui ne correspond pas au présent, le drapeau Fleur-d'Elysée monté au bout d'une perche. Eh bien, je me permettrai de dire que le Parti social français républicain est prêt à s'associer à tous pour la défense du pays, mais que dans le domaine de la politique intérieure, il n'a point à se solidariser avec la perche où monte le drapeau fleuri. Bravo.
Définissant les rapports du PSF avec les autres grands partis politiques français, le colonel poursuit.
Nous parlons programme, si l'on parle même, je veux le croire, patriotisme profond. Je ne vois pas ce qui sépare les radicaux socialistes de leurs voisins de droite. Je trouve même chez eux un mélange plus accentué entre les éléments populaires et les éléments bourgeois. Je n'insiste pas sur ce fait que les états-majors sont ici, encore une fois, je m'excuse de parler un langage militaire, dont ces partis ont avant moi fait usage. Les états-majors sont ici plus nombreux, au moins de façon permanente, que la troupe. Mais j'entends aujourd'hui, conformément aux décisions de notre congrès de Lyon, à la lumière trop sinistre des événements présents, mettre les élus et les éligibles du Parti radical socialiste en garde contre certains espoirs. Si, toutes les fois que cela nous est apparu nécessaire, nous avons au deuxième tour donné nos voix à certains candidats radicaux socialistes afin de ne point voir le succès venir à leurs voisins socialistes ou communistes, nous sommes bien décidés à ne pas continuer indéfiniment. Dorénavant, et chaque jour davantage, nous courrons notre chance, je le répète, comme nous le faisons partout, et spécialement là où la lutte est le plus difficile, demain à Pantin, à la Courneuve, hier à Villejuif, bientôt à Céret.
Les dirigeants du PSF sont exclus depuis longtemps des ondes radiophoniques officielles. Rappelant l'importance exceptionnelle de la radio dans la vie de chaque Français, le colonel déclare...
De même que la radio française, cette radio pratiquement étatisée, c'est actuellement une œuvre scandaleuse, antipatriote à travers le pays, en incitant tour à tour les Français au défaitisme, à la provocation, à l'agitation, en tronquant systématiquement les nouvelles qui ne sont pas les vôtres, les articles qui ne viennent pas des vôtres, les communiqués qui n'émanent pas des vôtres. De même, formés cependant par une haute culture aux scrupules de la pensée, vous ne cherchez pas, à l'heure où toute vérité peut servir la patrie, à présenter vos adversaires, dont vous prétendez faire vos alliés, pour ce qu'ils sont. Et maintenant, vous croyez pouvoir durer. Si ce trésor, ces finances dont vous avez pris la charge, courent à la banqueroute, vous réservez de dire que c'est la conspiration des forces d'argent qui nous amenait au précipice. Vous savez bien pourtant, Monsieur Blum, que depuis le début de vos expériences, vous avez lié parti vous-même avec ce que vous appelez les 200 familles. Vous avez joué habilement vous-même de ce que vous appeliez les 200 familles. Vous avez pu constater que ni la France ni l'étranger n'ont confiance en vous. Sur un faux renseignement d'après lequel vous renonciez à former votre cabinet, le franc a remonté de 4 points sur le marché de Londres et de l'équivalent sur le marché de New York. Comment, n'inspirant confiance ni à la France ni à l'étranger, n'avez-vous point de scrupules à parler à la France, à parler de la France à l'étranger ?
Larocque s'est prononcé pour un collège électoral unique en Algérie, ce qui provoque l'irritation de nombreux journaux. Citant un extrait de La Liberté, le chef du PSF poursuit.
C'est à propos de l'Algérie et de la loi violette. Le PSF a fait un projet au terme duquel il inscrivait dans le collège unique plus de musulmans que n'en prévoit le projet Blum-Violette. Il ajoute, il y a deux démagogies, celle de la gauche et l'autre.
Sa position face au marxisme reste inchangée. Larocque le confirme.
Nous réprouvons le marxisme pour tout ce qu'il contient d'opposer au principe de l'individualisme discipliné par nos grandes traditions culturelles. pour tout ce qu'il contient d'opposé à notre notion de la famille, du patrimoine, de la fusion des classes. Quant à la section française de la Troisième Internationale, je maintiens, nous maintenons plus que jamais notre formule, pas de collaboration possible, de quoi qu'il s'agisse, avec des hommes sous l'obédience d'un gouvernement, d'un organisme de propagande étranger.
Début janvier 1939, Radio Cité introduit dans son programme quotidien la causerie d'un leader de journal politique. C'est la minute des journaux d'opinion. Le mardi 3 janvier, Larocque prend la parole.
La radio me donne l'impression non seulement de me mettre en rapport avec une collectivité, mais de me faire rencontrer avec chacun de mes amis, lui apportant l'expression vivante, animée, d'une affection, d'une confiance, d'une solidarité commandée par l'esprit croix de feu lui-même. Certes, le petit journal, notre tribune permanente, crée entre nous l'indispensable collaboration de chaque minute et coordonne notre action par un lien visible et fort. Certes, grâce à lui, vous parviennent des informations contrôlées, objectives, des pages d'affaires étrangères, de politique intérieure et extérieure, sérieusement étudiées, suivant l'esprit de notre doctrine. Certes, grâce à lui, vous sont offertes de grandes enquêtes et la collaboration d'intellectuels, d'artistes, de savants, d'explorateurs, de toute une pléiade de personnalités dont la sympathie nous honore et nous apporte le plus précieux des encouragements. Mais ce n'était pas assez. Et les rudes circonstances de l'époque présente nécessitaient de plus intimes échanges entre vos interprètes et vous-même, chers lecteurs du PJ, chers amis et sympathisants du PSF. Voici que toutes les semaines, nous aurons la joie de vous parler fraternellement. Dans cette suite continue d'entretien, mes chers amis, nous nous interdirons non seulement les attaques personnelles, mais aussi les polémiques de journal à journal. Il suffit que les unes après les autres, par l'entremise hospitalière de Radio Cité, certaines feuilles puissent vous transmettre leurs inspirations, même venant de points opposés de l'horizon politique. Il serait malséant et fâcheux que ces déclarations successives, indépendantes, devinssent d'aigres dialogues échangés d'adversaire à adversaire. La tâche de critiquer sereinement les actes publics des hommes publics et de leurs partis est l'un des aspects de l'existence nationale. Pour être productive, pour être opportune, cette tâche exclut les polémiques privées. L'idée dominante de nos exposés hebdomadaires, au nom de ce grand journal, quel petit journal, sera l'idée de la France française. Après 18 ans d'immobilisme civique, social, militaire, économique, la France a atteint la période critique de 1936-1940 sans avoir accumulé, classé, organisé les forces internes dont elle avait besoin pour répondre à des échéances trop prévisibles. Et l'Allemagne, après les multiples, parcellaires et publicitaires violations de ce statut européen souscrit par ses représentants officiels en 1919, a fait l'Anschluss autrichien, démantelé la Tchécoslovaquie. Les accords de Munich, arbitrés par Mussolini, ont maintenu cette nouvelle paix gagée par l'effondrement des traités de Versailles, de Saint-Germain. Et l'Italie, après les funambulesques manifestations, par quoi on nous réclame la Tunisie, la Corse et autres lieux, attend peut-être de M. Hitler un autre arbitrage, garantissant quelques paix nouvelles, moyennant je ne sais quelle concession, qui consisterait à vendre un sol franchement et librement donné à notre pays avec l'âme de ses habitants, à vendre un sol imbibé du sang de nos soldats, de la sueur de nos colons. Et la Russie, décevante pour ses alliés extérieurs, dangereuse pour ses envahisseurs, la Russie des Soviets attend les conflits armés, livrant notre ciel à l'envahissement d'aviations hostiles, livrant l'Europe civilisée à la dévastation de batailles sans merci, pour installer enfin, sur les ruines fumantes de la tradition chrétienne, son régime de délation, de destruction, de déshonneur, de tyrannie anonyme. Et la France, désarmée, improductive, la France privée de berceaux, abandonnée par ses familles, dépourvue de soldats, la France attendrait d'un homme ou d'un groupe d'hommes un salut sans lendemain, attendrait d'une formule périmée ou imaginaire le miracle immoral des loteries et des jeux de hasard. Vous n'entendrez des hommes de ce journal que des paroles d'encouragement vers l'effort. La base matérielle de l'énergie française et la solidité de sa défense nationale trop longtemps livrée aux spéculations des politiciens, aux faiblesses larmoyantes des hommes en place. Il est possible de redresser presque immédiatement cette défense nationale. Nous saurons ici dire par quels moyens exceptionnels et vigoureux, attendus de nos amis extérieurs comme de notre peuple lui-même, cela peut être fait. L'expression victorieuse de l'énergie française appartient à une diplomatie susceptible de longs et rudes desseins, capable de lancer à Berlin et à Rome, sans mésestimer leur dynamisme, à Moscou, non sans rejeter ses doctrines démoniaques, ce mot dont Cambronne a fait un soir de défaite, l'annonce des revanches futures est certaine. France et France, qui cherchaient le signe de cette réconciliation, où doivent communier bientôt nos concitoyens, dans le respect mutuel des individualismes personnels et collectifs. Voici que toutes les semaines, les hommes de la Croix de Feu vous parleront et vous rediront les grandes consignes qui, depuis la nuit des temps, ont créé l'histoire glorieuse de notre patrie. En ce premier soir de nos colloques, laissez-moi vous apporter ici une affirmation. Vous ne trouverez la clé de nos destins dans aucune ambassade, auprès d'aucun gouvernement soviétique, italien, allemand ou autre. Nos destinées, les puissantes amitiés sur lesquelles elles pourront demain trouver leur élan pacifique et dominateur vers la mission de notre patrie au premier rang des peuples, elles sont entre vos mains, entre nos mains. À vous de les retrouver, à nous de vous y conduire.
Grâce à l'élan d'une jeunesse inquiète, à son programme social, à ses journaux, l'implantation du PSF se fait de plus en plus grande. Chaque semaine, plus de 3 millions de fidèles écoutent, à 10 heures du soir, le colonel de la Roque parler à Radio Cité. Ainsi, le mercredi 1er février 1939.
L'audience passionnée, indiscrète, accordée par l'opinion et ses dirigeants aux manifestations oratoires du Führer et du Deutsch, est humiliante pour notre pays. Ne sait-on pas que les dictateurs, en vertu de raisons personnelles, psychologiques, morales, financières et autres, sont obligés à des poussées périodiques de surenchère verbale? L'affolement suscité par telle déclaration, par telle campagne de presse officieuse, est aussi déplorable que l'apaisement provoqué par une baisse momentanée du ton de ces messieurs. Plus la galerie s'excitera, plus les dictateurs seront portés à jouer de leurs verbes successivement menaçants et adoucis. Les circonstances actuelles, la poursuite du programme de réarmement britannique, l'évolution du gouvernement américain vers une entraide éventuelle des démocraties, inciteront chaque jour davantage les États totalitaires à nous infliger leur douche écossaise. Perpétuels demandeurs, ces derniers nous trouvant en position d'autant plus diminuée que nous apparaîtrons plus inquiets. Bref, Hitler et Mussolini sont les protagonistes d'une tragicomédie. Compères, ils apparaissent tour à tour mutuellement accordés, réciproquement méfiants. L'intérêt de la France, le maintien de la paix, dépendent ainsi dans une large mesure de la tenue, de la dignité que nous saurons observer. Il ne s'agit ni d'être belliciste, ni d'être pacifiste. Les patriotards sont aussi néfastes au patriotisme que les bigots le sont à la vraie piété. Le coup de tchécoslovaque, succédant de peu à celui de l'Anschluss, a surpris notre pays en pleine fièvre d'élimination du Front populaire. Une organisation militaire mal adaptée aux besoins immédiats de la couverture. Une paralysie presque totale des fabrications de guerre, aggravée de l'exode massif des congés payés. Une crise désastreuse et trop connue de notre aviation militaire. La préparation totale de la défense antiaérienne des populations, tel est l'ensemble des faits qui mirent notre pays dans la nécessité de conclure et d'approuver les accords de Munich. Depuis 20 longues années, les responsables des affaires françaises avaient négligé, démoli, tout ce qui nous aurait fourni les moyens d'opposer notre veto à une lacération décisive des traités. Cette lacération, bien entendu, fut effectuée à l'heure propice où se dénouait tragiquement l'alliance radicalo-socialo-communiste. La patrie était au carrefour de sa destinée. Redressement suivant un rythme encore incertain, ou effondrement. Autrement dit, il fallait opter entre l'acceptation d'une guerre mal engagée, catastrophique dans ses débuts, et le procédé cher à M. Stresemann, Finassiren. Il est indiscutable que la nation tout entière souhaite un redressement accéléré, confirmé. Quoi qu'il arrive, le ministère d'Aladier est contraint à un minimum d'énergie, même si cette dernière n'est pas conforme à sa vraie nature. Les événements analogues à ceux de septembre 1938, survenant aujourd'hui, nous serions présentement en meilleure posture que voici 4 mois. Au cas où M. Daladier, non content de suivre l'impulsion rénovatrice venue de la masse, deviendrait capable de la diriger, notre situation deviendrait alors nettement, rapidement favorable. Mais nous avons, hélas, trop de motifs de constater une faiblesse à laquelle M. Duclos doit la vice-présidence de la Chambre, à laquelle les égoïstes adversaires de la réforme électorale doivent l'ajournement de cette urgente mesure, à laquelle le retard de la renaissance aéronautique doit de rester encore considérable. Le peuple tout entier, français et indigènes, de la métropole et de nos possessions d'outre-mer, s'est dressé d'un bond fraternel pour l'affirmation de sa fidélité à notre drapeau, à nos foyers. Que nos consuls veillent, qu'ils soient attentifs au langage, voire aux excès de langage, du Führer comme du Duce, comme de leurs satellites. La SDN avait lancé la mode fâcheuse du débat international sur le forum. Les dictateurs, héritiers de cette regrettable coutume, lancent leurs imprécations, leurs insultes de tribun à travers la foire des ondes radiophoniques. Raison de plus pour garder le sang-froid, pour faire à chaque instant la différence nécessaire entre le boniment et le raisonnement. Quant au pouvoir public, aux informateurs de l'opinion, quant au peuple lui-même, il reste calme, il constitue, il développe dans une atmosphère morale et politique purifiée la force prête à intervenir afin d'être dispensé d'entrer en jeu. Mussolini, Hitler, anciens combattants des premières lignes, sauront comprendre, si on sait le leur tenir, un langage de vigueur et de fermeté.
À chaque élection partielle, qu'elle soit cantonale ou nationale, le Parti social français gagne des sièges. Les scrutins laissent prévoir, de l'avis même des adversaires, de 100 à 130 sièges PSF dans la nouvelle Chambre. En février, le journal communiste L'Humanité demande à participer à la minute des journaux sur Radio Cité. Refusant d'engager le dialogue avec un journal soumis à l'influence directe de l'étranger, le colonel cesse sa participation aux émissions de radio. Le mercredi 15 février sera sa dernière intervention.
Au cours de ma tournée, à travers les organisations PSF des provinces, des campagnes, j'attire l'attention de tous nos dirigeants sur l'un des principaux dangers du moment. L'opinion patriote est sans doute consciente des menaces extérieures. Ne voyant pas comment elle pourrait y intervenir directement, elle s'en met aux généraux, aux amiraux, aux diplomates, aux pouvoirs publics. Quant aux affaires intérieures, l'opinion patriote les suit d'un regard lointain, apaisé. Le président du Conseil n'a-t-il pas prononcé à de nombreuses reprises des paroles énergiques, résolues? Et cela même qui, voici 3 ans, voici 2 ans, ne mentionnait pas le nom de M. Daladier, on y a couplé quelque inutile injure, cela même qui, voici 1 an, envisageait comme seule issue de l'expérience Front populaire la bagarre sanglante contre les troupes de M. Blum et de M. Daladier, cela même assimile presque ce dernier à un saint de vitrail. Tant il est vrai qu'une exagération conduit à l'exagération, le pire dans l'occurrence est que, à la fin du compte, l'opinion patriote se résigne, s'endort. N'est point dessein de rappeler à mes lecteurs le passé politique du taureau du Vaucluse. L'équité m'oblige à mentionner qu'entre ses beaux états de service de 1914 à 1918 et son attitude opportune lors de la grève générale de 1938, sa carrière a connu des épisodes moins recommandables. Ayant eu le deuxième bureau de l'état-major sous ses ordres, il ne pouvait ignorer la connivence permanente de nos bolcheviks avec une puissance étrangère. Son alliance électorale avec les communistes a donc revêtu, du point de vue civique, le caractère d'intelligence avec l'ennemi. Cette réminiscence ne comporte aucune hargne. Je n'ignore pas tout ce qu'on pourrait dire des complaisances, accommodements, combinaisons imputables à tant d'autres parlementaires de droite, de gauche. Étudiant la situation présente, je parle de l'actuel chef du gouvernement. Si donc celui-ci, par ses gestes récents, se recommande à l'appui du PSF, cet appui ne doit nullement exclure la clairvoyance, les réserves nécessaires. Je ne demande point, au contraire, que M. Daladier abandonne son parti, rejette sa doctrine théorique. Mais tant qu'il n'aura pas franchement prouvé que son orientation actuelle est définitive, nous ne saurions le soutenir autrement que comme un malade affligé de troubles moteurs, incertain de la solidité de ses jambes, sans cesse exposé à perdre sa direction. Lors des événements de septembre 1938, le président du Conseil a fait ce à quoi l'ont contraint les faiblesses navrantes de la défense nationale, de la défense anti-aérienne des populations. Il a pris part aux négociations comme brillant second de l'Angleterre. Aurait-il pu faire autrement? Pendant deux années consécutives, les hommes de la 2e et de la 3e internationale avaient littéralement campé dans les antichambres jusqu'à l'intérieur des bureaux du Quai d'Orsay. Puis, vinrent les troubles économiques, sociaux de novembre et décembre. Son attitude, ses décisions ont utilement accentué le recul du syndicalisme colonisé par Moscou.
Quelques mois plus tard, ce sera la guerre, puis la débâcle. Dès le 16 juin 1940, le colonel appelle à la résistance. Chef de réseau, Larocque est arrêté en mars 1943 et déporté en Allemagne. Libéré en 1945 par les Américains, il est, sous prétexte de le protéger, littéralement séquestré sur l'ordre du gouvernement provisoire dans la mansarde d'une caserne de Versailles. Il n'en sortira que pour subir une grave opération des suites de laquelle il mourra le 28 avril 1946.